dire moi je suis pour la migration. Bon, ok, t'es pour le soleil et l'autre il est contre les nuages. C'est la migration, c'est une mobilité et un phénomène qui existe depuis le début de l'humanité. Le débat qu'on doit avoir entre nous, c'est est-ce qu'on est inclusif ou exclusif? Est-ce qu'on met notre énergie à l'inclusion? Et alors là, quelle politique publique? D'accès à la langue, d'accès à la formation, d'éducation, d'accès au travail, d'évolution, mais bon, qui renvoie aussi à bien plus largement aux politiques d'emploi, de travail, de formation. Et ça, c'est un beau sujet. Et je voulais vous juste dire un mot sur les perceptions, parce que savez-vous, on a que les Européens voient, dans la dernière enquête d'Eurostat, 3,4 fois plus d'étrangers dans leur pays qu'il n'y en a en réalité. Mmh. En France, on surestime le nombre d'étrangers de 15
sur CNews
points.
Ou sur...
On surestime le nombre de musulmans de 23 points. C'est-à-dire que aujourd'hui, et là, les médias, notamment les médias du extrême droite de Bolloré, ont une responsabilité, mais pas que, parce que on voit aujourd'hui que ce récit-là, cette association délinquance, migration, terrorisme, migration,
mais comment on en est arrivé là, en fait? C'est dingue, quoi. Et comment c'est devenu discours dominant?
Alors, je pense que là où il y a un point, c'est que je pense qu'à un moment, le fait qu'une grande partie de la gauche et de la social-démocratie notamment abandonne la question sociale, la laissant finalement, non pas au libre jeu du marché, mais à une régulation tellement soft, quand l'espèce, le rapport de force étant tellement défavorable aux salariés, le rapport entre le capital-travail étant tellement défavorable au travail, les arbitrages qui sont rendus par le mécanisme du marché, par la négociation entreprise par entreprise ou de branche, ne permettent plus d'avancée sociale. À partir du moment où... J'ai mis l'excuse.
Non, mais répondez.
Si on vous demande, on n'est pas là. Hein. Moi, je ne suis pas là. Hein.
Bon, je peux lui répondre.
Oui, allez-y. Télé, ouais, on est en télé, ouais. On est en télé, ouais. Ouais, on est en télé, ouais.
Ouais, non, mais si, il y a que filmé. Excuse-moi.
Il y a des caméras, des micros.
Je peux même pas vous dire qui c'est. Vous êtes Xavier.
C'est Valls. J'ai vu.
Ah, je vais vous dire qui c'est. C'est le maire de Trappes, Ali Rabé. Un excellent.
Qu'on embrasse, qui veut nous regarder.
Excellent. Bien sûr. Élu.
Vous êtes vous ferez ça aussi devant Thomas Soto la prochaine fois, ça vous fera du bien.
Il y a une question du Jules, je crois. Tu voulais poser une question.
Oui, parce que moi, c'est vrai que ça trotte pas mal dans ma tête ces jours-ci. Sur moi, j'habite à Lyon en plus, c'est-à-dire qu'on voit des fascistes défiler dans les rues, et je suis assez stupéfait de ne voir aucune réponse collective de la gauche, des syndicats, des organisations, des partis évidemment, mais aussi des associations. Est-ce qu'il serait pas temps de construire ce truc-là, ou au moins de construire un cadre? Moi, j'ai l'impression. C'est une impression, c'est un fait, hein, que la gauche ne peut gagner et ne va pouvoir gagner que si elle se recentre un petit peu là-dessus et qu'elle propose une réponse, y compris culturelle, vous l'avez dit, à l'extrême droite. Et qu'il va falloir construire ce mouvement contre l'extrême droite, pour la République. Chacun pourra venir un peu avec son drapeau, un bleu, blanc, rouge pour ceux qui sont très à la République. D'autres pourront venir avec un drapeau rouge, aucun problème. Un drapeau palestinien aussi. Il y a un récit commun là-dedans aussi, y compris dans le rapport Nord-Sud. On parlait de pays ouverts, pays fermés. Quelle diplomatie, voilà. Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de se mettre au boulot? Est-ce que vous savez si des choses se font? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut aider?
Ouais, c'est clair.
Non, mais là...
Bon, parce que je réfléchis. Rue.
Oui, mais vous avez raison. Là où c'est vertigineux, c'est que moi, je me souviens quand j'avais 20 piges, le problème était radicalement inversé. C'est-à-dire que il n'était pas question qu'un pouce de la dalle sur laquelle on militait puisse être occupé par l'extrême droite. Et elle a toujours existé avec une force qui a varié. Mais là, aujourd'hui, on voit. Sur le terrain, on va dire au sens physique, celles et ceux qui incarnent la gauche, le progrès, la tolérance, l'antiracisme, le féminisme, on perd du terrain physique, en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le refus d'appeler à la violence pour répondre à la violence, et on ne va pas dire, bon, ok, prenez des battes pour taper des mecs qui ont des battes, etc. En même temps, ils ont été bien reçus à Romans, hein, j'ai l'impression. Bon, je dis ça, je dis rien, mais ce qui est certain, c'est que le niveau de pression de ces groupes-là sur des organisations, je vais parler pour la mienne, Singa, qui au départ était une ONG tournée vers l'entrepreneuriat, l'accueil, j'en profite pour dire, si vous avez des parents qui font, vous avez quitté le domicile de vos parents, on a un programme qui s'appelle J'accueille, d'hébergement citoyen des personnes réfugiées.
Dans votre chambre, si vous avez laissé une piole.
Voilà, si libre. Votre chambre et que vos parents se disent, bah tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose, c'est un super programme, j'accueille.fr, et ça a d'immenses impacts sur l'inclusion de ces personnes-là. Donc nous, on a une organisation, on va dire, plutôt de second rang, et bien ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, on est régulièrement menacés à notre siège, menacés pour nos salariés, nos bénévoles.
Même
et on est sous une... Ah oui, même nous, Singa, mais toutes les organisations.
Et puis les élus locaux aussi, vous parliez d'Agradé, il est aussi.
Il y a eu ce qui s'est passé à Saint-Brévin, à Calac, où à Calac, quand même, la pression de l'extrême droite de la rue a obtenu que un formidable projet d'installation, justement, d'artisans réfugiés, qui aurait probablement modifié le paysage complètement. Et on sait que plus le territoire est rural, plus les gens méconnaissent souvent les étrangers et plus là se fabrique la peur. Est-ce que vous savez, on a une boîte qui nous a offert un sondage et on a posé une question, savoir aux Français, combien de Français avaient un immigré, on a posé cette question-là, dans leur cercle de leurs relations personnelles. 65% disent « nous n'en avons pas ». Quand on a fait une étude sur les réfugiés, le HCR a fait une étude, et les réfugiés en France, ils sont seulement 12% à dire avoir une relation avec un Français qui n'est pas payé pour leur parler. Ça dit la séparation des groupes et des gens. Et donc, en fait, on vit des séparations spatiales, culturelles, symboliques, et qu'il faut absolument résoudre par la création de liens. Donc, je reviens à la question du Zul, parce que je ne veux pas avoir l'impression de m'échapper.
Oui, parce qu'il y a une énergie disponible. Je ne sais pas si vous avez vu la parodie de Malik Bentala.
Oui, bah ouais, et j'ai vu que Plenel l'avait retweeté, donc du coup, je l'ai regardé.
Non, mais il y a eu le succès fou de cette parodie. Il y a le succès aussi ce soir du complément d'enquête sur Cyril Hanouna. On sent que ce pays est disponible pour autre chose, il a envie d'entendre autre chose, il a envie de faire autre chose, il manque en revanche cette jeunesse, et c'est exactement ce que nous disait notre invité précédent, Safia, qui vient de SOS Racisme, elle manque de cadre de mobilisation.
C'est pour ça que...
Il y a une énergie disponible.
Je pense que ceux qui tiennent aujourd'hui en partie l'avenir de la gauche entre les mains, alors c'est collectif, on l'a tous un petit bout entre les mains, mais il y en a qui sont plus responsables que d'autres quand même, parce qu'ils sont à la tête pas simplement d'appareils politiques ou de mouvements citoyens. Je pense que s'il devait y avoir une étape 2 de ce qui avait été une réussite, la NUPES, je veux dire, qui aurait dit que la gauche, après les élections présidentielles, allait se réunir.
Oui, c'est clair.
Elle réunit, ça n'a pas duré longtemps, le cadre n'était pas démocratique parce que ce n'était pas assez mûr pour le faire. Mais je pense que s'il y a une étape 2 qui amènerait, mais alors là, des milliers de gens à réinterroger leur rapport à l'action politique, à l'engagement.
Ce serait quoi ? Ce serait le pacte du pouvoir de vivre ?
Non, mais le pacte du pouvoir de vivre, je pense que des forces seront disponibles. Ce que je veux simplement, moi, juste dire, c'est que cette force-là, l'arc qu'il faut, le machin, la force bousculante qu'il faudra créer, elle doit être démocratique. C'est crucial que nous ne soyons pas négligents à l'égard de la démocratie quand des forces antidémocratiques
sont à l'œuvre.
Populaire.
Vraiment, même une organisation, c'est un grand débat à gauche sur ça date du congrès de Tours, est-ce qu'il faut garder la démocratie ou pas. Moi, je fais partie de cette tradition, cette culture qui pense que les partis doivent être démocratiques parce qu'ils préfigurent un petit peu la société que l'on veut, mais surtout, ils ne peuvent pas faire l'impasse sur le fait qu'à la table, s'il y a une deuxième étape, puisque c'était un accord d'appareil, les forces ou les individus qui incarnent les causes par lesquelles on se conscientise à gauche, l'antiracisme, le féminisme, le climat, ces gens-là doivent être à la table dès le début. Alors, qui et comment les choisir ? À mon avis, il y a plus qu'il ne faut de gens. Mais ce n'est pas possible que cette étape-là, qui viendrait, ne soit pas et démocratique et ouverte immédiatement aux gens, plutôt jeunes d'ailleurs, qui aujourd'hui fabrique les causes par lesquelles tu as encore envie, ou en tout cas, on voit des gens, ils ont raison, des gens qui s'engagent quand même à gauche, en tout cas sur des causes qui nous parlent.
Les gens font des choses.
Il y a une question de Sacha sur la gauche, justement.
Ouais, j'ai une question, alors plus précisément sur le Parti Socialiste. En 2017, il y a les frondeurs, ou 2018, enfin, il y a les frondeurs, et les frondeurs étaient minoritaires à l'époque, vous en avez fait partie, et on a l'impression que maintenant, les ex-frondeurs de 2017 sont majoritaires et que les éléphants de 2017 sont devenus un peu minoritaires, et on leur fait même parfois un procès de droitisation, entre guillemets, vous parliez de social-démocratie tout à l'heure. Comment vous, vous percevez le glissement un peu idéologique du Parti socialiste depuis 2017?
Benoît Hamon.
Et où est passée la motion, où est passée la motion B?
Alors là, je ne sais plus comment les noms qu'elles ont maintenant. C'est compliqué parce que entre 2017 et maintenant, il y a eu quand même différentes séquences.
Je crois que tu parlais plutôt des années Hollande.
Ouais.
Tu parlais
des fondeurs 2013. Ah oui, pardon. Ah oui. Pardon.
Ah oui.
Les années Valls. Ouais.
Non, mais il y a eu ce que moi j'analyse être comme un abandon de la question sociale, qui a assez logiquement a été remplacé par un substitut qui a été la République au sens et l'universalisme dans une interprétation qui était une interprétation très excluante, presque un peu absolutiste. Moi, je suis sidéré de voir, par exemple, au nom de l'universalisme, ce qu'on raconte sur notre histoire coloniale, par exemple, ou même dans le débat sur les migrations, savez-vous pas que le mot « assimilation », qui est encore utilisé aujourd'hui en disant « Oui, les étrangers doivent s'assimiler, l'intégration, c'est pas très bien ce que ça veut dire, blablabla. » Mais l'assimilation, c'était le vocabulaire de l'administration coloniale qui disait, à l'époque, la France universaliste qui allait propager la République ou les vertus de la République partout, c'est que la France devait sortir intacte de sa rencontre avec l'étranger.
Ah, c'était ça la consigne.
C'est ça l'idée. C'est intact. C'est-à-dire que si quelqu'un devient français, il doit se débarrasser de tous ses traits culturels distinctifs de ce qu'on estimait être la culture dominante, majoritaire. On en est encore là.
Ah bah, totalement.
La baïa, c'est très pour ça aussi. Quoi. Hein, la polémique sur la baïa.
Mais sur tout ce qui fait qu'aujourd'hui, même sur l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que depuis des années, alors on parle maintenant de Sud global, mais il y a surtout moi quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'était l'histoire globale. Je vais vous prendre un exemple, j'ai des enfants, j'ai deux filles qui sont au collège et au lycée. Et on en est encore à dire que, dans les mots qu'on utilise, que Colomb a découvert l'Amérique, comme s'il n'y avait pas eu des gens qui habitaient là avant, avec leurs propres histoires, leurs propres empires, leurs propres guerres. Et on a une vision du monde qui reste européocentrée. Et ce qui était intéressant dans ce mouvement autour de l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire globale, c'est que la perspective change et qu'on cesse de voir l'histoire et l'évolution du monde à travers le rapport exclusif qu'elle aurait à l'Europe, aux Européens et à la conquête.
Parlez-nous de la gauche. C'est un prisme colonial, surtout.
Absolument.
Et quand on change de prisme et qu'on regarde du point de vue de l'autre en face, c'est beaucoup moins marrant l'arrivée des Européens en Amérique. C'est vraiment pas dingue.
C'était pour parler de Hollande.
Ce sera le mot de la fin, allez-y.
Non, mais je ne sais pas quoi vous dire.
Est-ce que vous pourriez être amené, vous, Benoît Hamon, à rejouer un rôle un jour en politique, dans cette gauche que vous appelez de vous-même démocratique? Voilà.
Alors, est-ce que c'est possible qu'on moi, je pense que, un, la gauche peut gagner en 2027 et qu'il y a qu'elle qui peut battre l'extrême droite.
Okay.
Il n'y a aucune solution au milieu, ça ne marchera pas. L'héritier de Macron, ça ne marchera pas. La droite, on a compris que...
Il faut construire quelque chose en attendant.
Donc le vrai sujet, c'est ça. Mais la première chose à dire, et je ne le dis pas comme... Je ne suis plus en politique, donc je ne le dis pas comme une formule pour... parce qu'il faut faire semblant d'être optimiste. Vraiment... Le sujet, il est là. Le potentiel, il existe. Ça ne va pas être simple de gagner, mais il n'y a que la gauche qui peut y arriver. Il y a des désaccords stratégiques à gauche aujourd'hui. Pourquoi moi, je parle de démocratie au sein de la gauche? Parce qu'elle doit régler ses différends stratégiques. Et le différend stratégique, il peut exister entre ce que propose Jean-Luc, ce que peuvent proposer d'autres, mais ces différends stratégiques, ils doivent pouvoir être débattus, tranchés dans un cadre qui est un cadre qui nous dépasse, ou dépasse les actuels impétrants à gauche. Donc, j'ai vraiment la conviction de cela. Donc, à partir du moment où on dit que l'extrême droite peut gagner, ce qui est plausible,
ce qui est vrai, oui.
Et qu'il n'y a que nous qui pouvons la battre, là où je suis avec ce que je fais là, et j'imagine plein d'autres, mais moi, je me mettrais au service, évidemment, la force ou du mouvement qui aspire à cela. Merci. Et se mettre au service, c'est, par exemple, parler comme on le fait aujourd'hui, des migrations. Et merci de nous avoir donné cette occasion-là. J'ai été très long. Et pardon de vous avoir confondu avec une télé, ce qui est une honte. Je vais me faire démolir.
De boomer, mais c'est pas très bien. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse quitter le plateau. On va conclure cette émission rapidement avec mes chroniqueurs et mes chroniqueuses. Merci à vous les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission, une émission Backseat dans laquelle on a parlé de la francophonie, ensuite on a parlé de collection de jeux vidéo, ensuite on a parlé d'actualité avec vous trois, ensuite on a échangé avec Benoît Hamon. Moi j'appelle ça une bonne émission Backseat.
Ah moi c'était une de mes préférées depuis le début de cette saison.
Ah ouais. Et en même temps c'était un peu le club, c'était le classico, il y avait quand même voilà, Usul,
Léa,
Sacha
en plus.
Les anciens, Usul, Léa, Sacha, on avait fait exprès, on s'est dit tiens ça nous ferait du bien de faire une émission spéciale avec les anciens. Non, c'était chouette, les tauliers. Ça va, ça va, Léa, ça t'a fait plaisir de revenir?
Ah ouais, carrément, c'est trop cool d'être là.
Tu nous avais manqué.
Bah, vous aussi, vous m'avez grave manqué.
Où est-ce qu'on vous retrouve si on veut suivre vos aventures? Usul, dimanche, Rhinocéros, c'est sur Blast.
Rhinocéros sur Blast, grande corne, petite corne. On va parler de Frenchy Shore. Voilà.
Frenchy Shore, ce sera dimanche sur Blast.
À 18h.
Sacha.
Moi, à 23h devant Complément d'enquête.
Ce soir. Sûr.
Tous les jeudis à 21h20 sur France Info, mais du coup, je te fais de la concurrence.
Mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Et toi, Léa?
Moi, Popple reprend ses activités, doucement mais sûrement, après une campagne de crowdfunding. On reprend les podcasts dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, avec une nouvelle identité sonore.
Oh, wow.
Et ma prochaine invitée sera Mao Drama, l'humoriste fabuleuse, très drôle, de gauche et féministe.
Et ben voilà. Merci. Merci à toi, merci
toi
à vous trois.
C'est
je suis en convalescence, donc je vais continuer à me reposer dans les prochains jours et on verra dans quel état je suis la semaine prochaine.
Ok.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci.